Bleu, RCFM. France Bleu. Si on en parlait, avec Christine Allouti sur RCFM.
Un sujet qui passionne toujours autant et qui fait couler beaucoup d'encre, on en parle partout et pour cause, nous sommes en plein dedans, le Covid-19 et si on allait vers une fin d'épidémie. On va voir ça avec notre invité du jour, docteur Laurent Toubiana, chercheur à l'INSERM, épidémiologiste. Il fait de l'épidémiologie depuis 30 ans et très important de le rappeler, il est l'un des rares Français à faire de l'épidémiologie de maladies transmissibles.
RCFM, si on en parlait.
Docteur en physique, docteur Laurent Toubiana, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir.
Eh bien, moi, je suis ravi d'être accueilli par vous et j'ai accepté votre invitation. Vous savez que je n'aime pas trop parler sur... Je suis quelqu'un de réservé et parler sur les médias, pour moi, est toujours un peu difficile. Donc, voilà, j'espère que... Je ne vais pas trop vous décevoir, mais je vais essayer d'expliquer, c'est important.
Alors, vous le dites très justement, hein, je l'ai dit tout à l'heure quand je vous ai teasé, ça fait longtemps qu'on ne vous a plus vu dans les médias, vous avez longtemps déserté la scène médiatique parce que vous l'avez dit, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, et votre discours, docteur Toubiana, depuis le départ, n'a jamais changé. Le fait de répéter aujourd'hui et de poursuivre dans ce que vous disiez au départ, c'est un relief différent aujourd'hui.
Je n'en sais rien, mais de fait, je déteste me répéter. Globalement, une fois que j'ai dit quelque chose, je l'ai dit et ça, pour moi, ça suffit. Revenir sur les plateaux pour dire la même chose d'une manière sempiternelle m'exaspère. Donc, j'avais décidé de ne plus intervenir, d'autant que il n'y a pas que ça. Il faut avoir
le temps pour le faire.
Il faut avoir le temps, ça c'est sûr. Mais aller affronter en permanence des contradicteurs, parfois extrêmement pernicieux, j'ai pas le temps de faire ça. Et bon, je dis les choses, et puis ce que j'ai dit semble s'avérer exact. Et donc, j'avais plus envie de venir, puis c'est très fatigant, voilà.
Bon, et puis c'est quand même rassurant de savoir que les chercheurs sont aussi dans les laboratoires, hein, pour justement étudier ce Covid-19. Donc vous êtes consacré, hein, à cette recherche, et je vous le disais, c'est plutôt rassurant. Vous êtes intervenu la semaine passée chez nos confrères de CNews avec des chiffres qui ont beaucoup fait réagir, mais ça vous avez l'habitude, on va revenir sur ces chiffres dans quelques minutes. Mais avant de parler de ces chiffres, je voulais qu'on parle des indicateurs de cette épidémie, si vous le permettez. D'habitude, pour caractériser une épidémie, et vous m'arrêtez si je me trompe, on regarde le nombre de malades et pas le nombre de cas. Vous allez nous l'expliquer aussi. Vous allez nous faire la différence qui est, je pense, importante. Donc, le nombre de malades et le nombre de morts que génère cette épidémie. Aujourd'hui, docteur Toubiana, on a comme l'impression que l'on a changé de paradigme.
Oui, vous touchez là le point essentiel. Finalement, ce que vous êtes en train de dire... c'est que on avait l'habitude de caractériser une épidémie par un certain nombre d'indicateurs, et notamment cet indicateur, en général, c'est un nombre de malades. J'y reviendrai tout à l'heure, mais avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais vous dire quand même une toute petite phrase qui va me caractériser, peut-être donner une indication à vos auditeurs, sur mon état d'esprit. Mmh. Voilà, cette petite phrase, c'est une phrase introductive à un texte que j'ai écrit au tout début de l'épidémie.
Donc en février 2020.
Alors c'était fin février, mais le texte a été publié officiellement le 11 mars 2020. Mmh. Le 11 mars 2020, au matin, j'ai publié ce texte, et le soir, si vous vous souvenez bien, nous avons eu un discours du président de la République qui mettait en place le confinement. Voilà, tout ça est un peu concomitant, mais ça nous fait un saut en arrière de presque...
Deux ans, aujourd'hui.
Deux ans. Voilà. Et donc, ce que j'écrivais en introduction, c'est ça. Au cours des premières semaines, après l'annonce des premiers cas en Chine de ce qui allait être appelé l'épidémie de Covid-19, Nous avons préféré ne pas réagir précipitamment face à ce phénomène émergent. Les chiffres rapportés, les grandeurs utilisées, les calculs peu rigoureux mais pourtant publiés dans des revues sérieuses nous indiquaient qu'il était urgent de prendre du recul vis-à-vis de la question. C'est-à-dire que, bien sûr, cette question, j'y avais réfléchi, mais je réfléchis à cette question depuis 30 ans. Et je connais les épidémies depuis 30 ans, et je sais que les phénomènes qui tournent autour des épidémies sont toujours des phénomènes, si vous voulez, au niveau populationnel, hein, c'est-à-dire au niveau des réactions et même au niveau de la sphère médiatique, sont toujours extrêmement, peuvent basculer d'un extrême à l'autre, et parfois nous sommes rendus à prendre des décisions totalement aberrantes. Et c'est pour ça que je disais, fort de mon expérience, qu'il était urgent de prendre du recul vis-à-vis de la question.
On n'a pas pris assez de recul, selon vous, docteur Tobiana ?
Pas assez de recul pour réfléchir. Je pense qu'au tout départ, il y a eu une forme de laisser aller au tout début. C'est-à-dire qu'on avait une information, on a eu largement le temps de réfléchir, et le virus était présent en France depuis déjà plusieurs semaines, on le sait maintenant, mais...
Voire plusieurs mois, on pourrait aussi...
Oui, mais je ne veux pas aller jusque-là. Mais on sait qu'il était présent. Il y a eu... on avait des informations disponibles, et d'ailleurs... Un petit peu, si vous lisez le texte, alors le texte est disponible sur le site de l'IRSAM.
Oui, parce que vous êtes directeur de l'IRSAM,
L'IRSAM, alors je vais l'épeler, c'est IRSAN.
C'est l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé pour nos auditeurs.
Et j'invite vos auditeurs à aller sur ce site parce que j'y mets à peu près toutes mes sources. Finalement, je mets tout ce qui me permet de parler aujourd'hui. Donc, tout sera vérifiable et vous verrez que au niveau de ce site, je vais chercher les données sur de très nombreuses sources, notamment Santé publique France, mais aussi l'INSEE, l'adresse, enfin, un peu partout. Et j'agrège ces données de façon à donner des clés assez claires aux gens, pour que les gens puissent comprendre. En gros, c'est mon but. Hein.
Puissent se faire leur propre opinion.
Exactement. Donc,
docteur Tobiana,
pour répondre à votre question, oui, je pense que il y a eu dans un premier temps une forme de laisser aller, et puis après une prise de conscience très brutale à partir du moment où des alertes avaient été mises en place en Italie, notamment.
Oui.
On a au début un peu rigolé de l'Italie. Souvenez-vous, on disait et ils savent pas s'y prendre. On fait toujours ça en France. Puis après, ça a touché l'Allemagne. Et puis après, là, il y a eu brutalement une prise de conscience que ça allait nous arriver aussi. Et là, on est passé d'une forme de laxisme à une urgence. Mmh. Et dans l'urgence, on a fait, de mon point de vue, n'importe quoi.
D'accord. Alors, voilà. On a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, selon vous, même si je voudrais qu'on parle plus de l'avenir, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, selon vous, docteur ?
Eh bien, déjà lire mon analyse, l'analyse de l'IRSAN, qui était publié à peu près en même temps, et donc si moi j'ai pu la faire, vous avez dit tout à l'heure que nous n'étions pas nombreux, hein, il n'y a pas beaucoup d'épidémiologistes en France, il faut bien le savoir.
Qui s'occupent en plus de ces maladies transmissibles. Hein.
Pardon ? Oui, mais nous sommes quand même suffisamment pour, je ne pense pas être le seul finalement à avoir réfléchi de cette manière-là. Nous sommes très nombreux. Et j'aimerais vous dire au passage que l'idée des intervenants qui sont passés à la télévision pour essayer de modifier la vision des choses n'a pas eu beaucoup. Ils se sont tous fait un peu malmener. Mais derrière ces gens-là, c'est la partie émergée d'un iceberg immense où il y a des milliers de chercheurs qui sont exactement sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas des gens isolés, des professeurs Nimbus qui arriveraient comme ça sur une radio ou sur un plateau de télé en train de vous dire des choses complètement ahurissantes. Non, nous sommes très nombreux, malheureusement, ce que nous publions est passé sous silence et parfois censuré.
Vous avez d'ailleurs publié une tribune avec 2800 épidémiologistes et chercheurs qui n'a pas trouvé écho finalement dans la scène médiatique.
Oui, en fait, cette tribune aurait dû normalement être signée par beaucoup plus de monde, mais nous avons été extrêmement stringents, c'est-à-dire que nous avons sélectionné les gens qui signaient cette tribune. Il y a à l'heure actuelle 2300 signataires. Ce sont des professionnels de santé, des gens comme moi, des chercheurs, des professeurs. Et tout ce travail-là est validé par ces gens. Je tiens à dire aussi au passage que je travaille depuis maintenant 2 ans avec d'autres chercheurs comme moi, notamment avec Laurent Mucchielli, pour lequel on a fait un travail énorme de réflexion, et nous allons publier en très peu de temps, je crois dans une quinzaine de jours, un livre collectif avec de très nombreux chercheurs, et ce sera publié justement par un éditeur corse. Donc,
un petit clin d'œil.
Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que non, nous ne sommes pas seuls. Et face à nous, il n'y a pas de. Si vous voulez, on ne sait pas. La question qui revient souvent, c'est on ne sait pas qui croire.
On peut les comprendre.
Les gens qui sont les gens de métier. Hein.
Oui, non, mais, je suis d'accord, mais c'est vrai que, docteur Tobiana, le grand public. Peut être largué. Je parlais des indicateurs tout à l'heure. D'ailleurs, même entre épidémiologistes, est-ce que vous parvenez à parler le même langage ? Parce que lorsque l'on change comme ça les codes, une méthode qui était utilisée alors en France depuis des années, le système métrique pour mesurer, pour comprendre la dynamique d'une épidémie de maladies transmissibles, tout le monde était basé là-dessus pour comprendre justement comment fonctionnaient ces épidémies, pour donner des chiffres. Et puis d'un coup, on change quelque part les règles, est-ce que vous comprenez même entre médecins ?
Alors, je vous remercie beaucoup de me faire revenir sur la vraie question. La vraie question, c'est comment mesure-t-on une épidémie ? En gros, c'est ça. Et donc, ceci, même si une épidémie peut paraître compliquée, on voit bien que c'est compliqué, il y a quand même un certain nombre de choses qui permettent de les mesurer, et non seulement de les mesurer au cours du temps, mais dans l'espace, et surtout, ceci nous permet d'avoir des échelles de comparaison. Et donc, si vous voulez, la science est fondée justement sur l'observation et sur les choses que l'on peut comparer. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, pour les épidémies, il y a un indicateur qui est... l'indicateur, c'est de recenser le nombre de malades, tout bêtement.
Que l'on appelle aujourd'hui, docteur, le taux d'incidence, c'est ça ?
Oui, on appelle ça l'incidence d'une manière générale. Cette incidence a été très peu utilisée dans les médias au tout début. Souvenez-vous, nous avions le directeur général de la santé qui venait nous annoncer...
Tous les soirs, le nombre cumulés. De morts, c'était très...
Oui, mais c'était le nombre cumulé, donc c'est une fonction croissante, monotone croissante.
Et c'était très anxiogène, donc, d'ailleurs, hein, on s'en rappelle.
Très anxiogène, et d'ailleurs, l'ensemble du mécanisme, finalement, de ce qui va se passer, de l'acceptation des mesures, est fondé sur, justement, cet aspect anxiogène et le fait qu'on a généré de la peur. D'ailleurs, avec Laurent Mucchielli, dont je parlais à l'instant, nous avions écrit une tribune qui s'appelle et qui avait été signé par énormément de chercheurs, nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. Par la peur pour les populations, mais on avait aussi l'impression qu'il y avait une peur au sein du gouvernement qui était différente, mais tout le monde avait peur dans cette affaire-là. Mmh. Le gouvernement, probablement, avait peur qu'on le traîne devant les... D'ailleurs, le Premier ministre de l'époque avait dit qu'on traîne devant la justice pour ne pas avoir pris suffisamment de précautions.
De précautions. Donc, pour revenir aux statistiques, donc normalement, pour mesurer une épidémie, c'est le nombre de malades sur un temps donné dans un espace de référence. C'est comme ça que vous avez toujours procédé.
On a toujours procédé de la sorte. C'est ce que l'on a... Alors, on a plusieurs outils pour les épidémies.
Bien sûr.
Mais pour les épidémies de maladies transmissibles rapides comme celle-ci, c'est-à-dire avec des progressions importantes, nous utilisons globalement des incidences hebdomadaires ramenées à la population de l'espace d'observation. Et l'espace d'observation en France, par définition, c'est le pays tout entier. Bien sûr, on peut...
Donc 67 millions d'habitants.
Pardon ?
67 millions d'habitants.
Sur la France métropolitaine, il y en a un peu moins, mais de toute façon, les chiffres qui sont donnés sont rapportés à l'ensemble de la population avec les territoires d'outre-mer. Donc oui, c'est sur 67 millions d'habitants ramenés en pourcentage, etc. Et donc, globalement, lorsqu'on étudie ces épidémies-là, eh bien, on a un chiffre qui évolue évidemment toutes les semaines et je vous indique sur le site de l'IRSAN, vous pouvez voir, même ce sont des courbes très connues, vous pouvez voir justement l'évolution au cours du temps de cette incidence qui généralement fait à peu près toujours la même dynamique, c'est-à-dire une phase ascendante rapide, elle atteint un pic, puis elle redescend. Et donc, ce que l'on voit très schématiquement, c'est une sorte de courbe en cloche. Cette courbe, en fait, représente une succession de taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pendant la semaine pour ramener à la population.
Mais pourquoi, donc, juste en quelques mots avant qu'on fasse une pause, pourquoi on a changé finalement de ce paradigme pour la Covid? Pourquoi on a pu utiliser ça pour que nos auditeurs comprennent bien?
Pourquoi on a changé ça? D'abord, on l'a pas changé lors de la première vague. On a commencé.
Oui, bien sûr, on l'a dit.
Ce qu'on a appelé la vague, hein, moi je refuse ce nom, mais c'est la première phase épidémique.
La première phase.
Mais après, sont intervenues d'autres méthodes qui consistaient à tester les gens. Donc, vous avez probablement tous entendu parler de cas positifs. Et les cas positifs, ce sont des gens testés. Mais ça, on n'a jamais fait ça pour les épidémies. On ne teste pas toute une population pour les épidémies normales. Ce que l'on regarde en général, ce sont des malades, des gens qui vont
donc cette notion,
voir un médecin,
voilà.
soit directement à l'hôpital. Et ça, c'est comme ça qu'on mesure les épidémies. Et lorsque l'on observe ça pour l'épidémie de Covid, eh bien, on s'aperçoit que les taux d'incidence sont extrêmement faibles.
Bon, on va en parler. On fait juste une petite pause avec Ed Sheeran pour la musique et on revient avec vous, docteur Laurent Tobiana, et puis avec vos réactions sur nos réseaux sociaux Bleu RCFM. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSERM, vous êtes épidémiologiste et vous faites partie justement des rares Français à faire de l'épidémiologie de maladies transmissibles. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui.
RCFM. Lipstick on my guitar.
Shivers, Ed Sheeran sur RCFM.
RCFM.
Est-ce que l'on va enfin vers une fin d'épidémie de Covid-19? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec le docteur Laurent Tobiana, chercheur à l'INSERM, directeur de l'IRSAN, épidémiologiste qui fait de l'épidémiologie depuis 30 ans et qui est, il faut le rappeler, un des rares Français à faire de l'épidémiologie de maladies transmissibles. Alors docteur, on parlait de notions de malades et de notions de cas. Je voudrais, s'il vous plaît, que l'on revienne rapidement là-dessus, parce que c'est vrai que tous les jours, on a des chiffres qui sont, vous le disiez, très anxiogènes, puisqu'on nous dit 200 000 cas, 100 000 cas. On est un petit peu perdu, mais vous me disiez hors antenne, attention, il faut vraiment faire la différence, et c'est le message que vous vouliez faire passer aussi à nos auditeurs aujourd'hui, sur la notion de malade et la notion de cas.
Oui, merci beaucoup de me rappeler ça, parce que c'est ce qui est le plus important. En réalité, pour l'instant, le gouvernement, les autorités sanitaires communiquent sur les cas. Et il y a quelque chose de fallacieux là-dedans. Parce que ce que l'on appelle des cas, généralement, ce sont des malades. Tout le monde a compris ça. Or, les cas dont on parle là ne sont pas des malades, en réalité. Ils ne sont pas du tout malades. La plupart d'entre eux ne le sont pas.
Ils ont juste croisé le virus, en fait, ce que vous voulez nous dire.
On a trouvé une trace d'un virus chez eux, mais la plupart du temps, ils sont tout à fait sains. Ils ont juste été repérés comme étant porteurs de quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce virus. Et ça, c'est extrêmement important parce que quelque part, le fait qu'il y ait des cas comme ça n'a pas d'incidence, ou presque pas d'incidence, sur le déroulement de l'épidémie. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on vous annonce quelque chose comme 180 000 nouveaux cas, on a l'impression que c'est quelque chose de monstrueux.
Oui, parce que dans notre esprit, docteur, dans notre esprit, quand on va parler justement de la saturation des hôpitaux, mais c'est vrai que tout à chacun, lorsqu'on entend ça, ces chiffres à la télévision, et puis dans le contexte dans lequel nous sommes depuis 2 ans, c'est vrai que lorsqu'on nous dit 200 000 nouveaux cas, tout de suite on s'imagine que ça va être l'afflux dans les hôpitaux, l'afflux chez les médecins. Au final, quand on parle de cas, c'est pas ça qui se passe.
Oui. On vient de le rappeler, un cas n'est pas un malade, d'accord ? Un malade, c'est quelqu'un qui se rend chez un médecin, qui est répertorié comme tel, il est malade, d'accord ? Il a besoin d'un traitement, ou à l'hôpital, ou en soins d'urgence, ou en soins critiques. Si vous voulez, tout ça, ce sont des malades. Mais ce que l'on repère en tant que cas positifs, eh bien, ça, ce ne sont pas nécessairement des malades, ce sont des gens porteurs d'un virus qui a été repéré comme ça. Et donc, ça, c'est la première tromperie.
Et c'est vrai que...
Si vous voulez, depuis tout à l'heure, on parle de taux d'incidence, c'est-à-dire qu'on rapporte le nombre de malades à une population. Là, on vous donne un chiffre brut. C'est-à-dire que, effectivement, plus vous faites de tests, et plus vous aurez de cas, et si vous ne rapportez pas le nombre de tests positifs au nombre de tests que vous avez fait, vous n'avez une information qui est parfaitement inutile, si ce n'est pour faire de la propagande. Donc, ce qui est important, c'est déjà de voir le taux de positivité. Et lorsque l'on regarde en gros le taux de positivité depuis le début de cette épidémie de 2 ans, en moyenne, le taux de positivité est autour de 5%, on va dire, mais très, très sommairement. Aujourd'hui, quand on regarde...
Pour nos auditeurs, le taux de positivité, ça veut dire sur tous les tests qui sont... d'ailleurs, vous parlez de massification des tests, vous parlez de testomania, vous, docteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend tous ces chiffres, on n'a que 5% de positivité sur tous ces tests.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on a 95% de tests qui ne sont pas positifs.
De tests négatifs, ça veut dire que... Allô ?
Oui, on vous entend.
Oui, ça veut dire que dans 95% des cas, le test est négatif. Je pense que je suis passé en haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez toujours ?
Ah non, on vous entend très bien.
Bon. Donc oui, ça veut dire que globalement... lorsqu'on teste par million, et c'est là aussi toute l'aberration de ce système. Jusqu'à présent, on ne testait pas, mais là, en plus, on fait une massification extraordinaire des tests. Lorsqu'on mesure quelque chose et qu'on obtient 95% de choses négatives sur ce que l'on observe, on peut se dire que les 5% en général peuvent être de l'ordre de l'erreur.
Oui, parce qu'il y a toujours 5% d'erreur hein, autorisée.
Voilà.
Est-ce que
globalement, on est dans l'ordre de l'erreur, mais admettons que ça ne soit pas le cas. Il y a encore même là-dessus des choses à réfléchir, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que là, à l'heure actuelle, ce taux de positivité, qui était donc, je le rappelle, de 100% en moyenne, augmente, et on nous dit, vous voyez, ça augmente, donc on atteint les 8%. Mais là, l'épidémiologiste que je suis, et beaucoup d'autres épidémiologistes, vont stratifier par âge et vont regarder quelles sont les tranches d'âge. C'est important parce que...
Oui, j'allais y venir.
On sait que les personnes jeunes ne font pas de forme grave, quoi qu'il arrive, même lorsqu'ils font une forme de malade, hein, c'est-à-dire qu'ils vont voir leur médecin, cette maladie est très bénigne. Et donc, lorsqu'on regarde le taux de positivité, eh bien, on s'aperçoit qu'il est plus haut chez les personnes plutôt jeunes, c'est-à-dire inférieures à 50 ans, et le taux de positivité est bas sur les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 50 ans. Quand je dis à risque, c'est moi, je ne prends aucun risque en disant ça, c'est-à-dire que, en gros, on n'est pas à risque après. On commence à être à risque au-delà de 65 ans, si vous voulez, et encore. On a fait des études sur la mortalité d'abord.
On va en parler. Mais docteur, je voudrais qu'on parle sur cette massification des tests hein, que vous appelez testomania. Est-ce que vous iriez, vous chercheurs, jusqu'à dire que, comme certains l'ont fait, que si on ne testait plus, que si les personnes arrêtaient d'aller finalement se faire tester pour quand elles n'étaient pas... Parce qu'aujourd'hui, on a tellement peur d'infecter une grand-mère, d'infecter une personne à risque justement, que pour un repas de famille, c'est rentré presque dans les mœurs. C'est affolant, je m'entends le dire, d'aller se faire tester. Si les gens arrêtaient d'aller se faire tester, est-ce que vous pensez que cette épidémie passerait en sous-marin, finalement avec les chiffres que vous venez de nous donner. Hein.
Elle passerait à son niveau actuel, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, on est à 33 en moyenne. Alors, à l'heure actuelle, on est à 43 malades pour 100 000 habitants, ce qui est une valeur extrêmement faible au regard de ce que l'on pourrait avoir pour une épidémie de grippe. Parce qu'il faut quand même comparer les choses comparables. Une épidémie de grippe, en moyenne, l'incidence moyenne d'une épidémie de grippe, c'est plus de 300 cas par semaine pour 100 000 habitants.
300 malades.
Oui, quand je parle de cas, pour moi, c'est...
Ah oui, pardon. Je veux qu'on parle de la même chose.
La conclusion. Oui, je vous remercie absolument de me rappeler ça, parce que pour moi, un cas est un malade.
Oui.
Mais là, ici, un cas, vous avez vu qu'il y a un glissement sémantique où un cas n'est pas un malade, en fait. Il est simplement... Cas. On a retrouvé une trace, mais c'est tout.
Donc c'est pour ça que je veux... Les mots ont leur importance, parce que vous avez, je le disais en introduction, vous avez donné des chiffres la semaine dernière chez nos confrères de CNews qui ont fait beaucoup réagir. Vous parliez de 40 malades, justement, en une semaine pour 100 000 habitants en France. On vous est tombé dessus en disant que vous ne preniez que comme base les chiffres du réseau Sentinelle, qui est composé, on le rappelle pour nos auditeurs, de 1300 généralistes volontaires répartis sur tout le territoire et qui est justement chargé de faire remonter les données de santé, essentiellement des maladies infectieuses, à des fins de recherche et d'études épidémiologiques. Les personnes qui vos détracteurs, font une mauvaise appréciation des chiffres ou juste vous parliez pas le même langage ?
Mes détracteurs sont des gens qui exagèrent, parce qu'on a toujours quantifié les épidémies de cette manière-là, c'est-à-dire en faisant un échantillon à partir d'un échantillon de médecins, et on a à peu près, on évalue ce qu'on appelle, et c'est une estimation des incidences, donc on a une estimation globale au niveau de la France du nombre de malades, et ça on le fait depuis 40 ans presque, depuis 1984.
Donc avec ce réseau, hein, docteur.
Donc, il est... Pardon,
avec ce réseau, hein, donc.
Alors, avec le réseau Sentinelle, mais il existe d'autres réseaux. Et d'ailleurs, lorsque j'ai annoncé les 40 cas, je crois...
Pour 100 000 habitants.
Pour 100 000 habitants, en une semaine. 40 cas en une semaine pour 100 000 habitants. Il faut quand même se mettre ça en tête. J'avais, comment on fait une moyenne entre plusieurs réseaux qui font à peu près la même chose. Notamment, j'avais utilisé SOS Médecins. C'est très important, SOS Médecins, car ce sont les médecins qui sont appelés en première ligne.
Si c'est pour les premiers... Oui.
En général, ce sont les pathologies aiguës. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'en médecine de ville, c'est-à-dire pas à l'hôpital, en médecine de ville, globalement, en moyenne, on avait, l'ordre de grandeur, c'était 40 malades en une semaine pour 100 000 habitants. Et les deux réseaux étaient cohérents. Donc, à partir du moment où ils sont cohérents, on peut croire qu'en ville, en tout cas, sont vus 40 malades pour 100 000 habitants en une semaine. Ça ne veut pas... je n'ai pas inclus, évidemment, les malades des hôpitaux, mais en gros, il y a une petite équation fort simple. Lorsqu'on a en ville tant de malades, on a une proportion de malades qui vont à l'hôpital. C'est-à-dire que cette proportion est à peu près constante.
Oui, c'est mathématique.
Oui, alors elle est constante, mais vous verrez que elle est pas. Il faut manipuler ça avec beaucoup de précautions. Néanmoins, globalement, ça ne fait pas énormément de, ça ne fait pas énormément de malades, puisque pendant qu'il y avait aux alentours de 40 malades pour 100 000 habitants en médecine de ville, il y avait à peu près 13 ou 14 malades entrés en hôpital, c'est-à-dire vu à l'hôpital. Voilà. Donc, et parfois, ces deux chiffres se recoupent, parce que parfois, ils sont d'abord vus par un médecin, puis ensuite, ils vont à l'hôpital. Mais certains vont directement à l'hôpital, ça c'est clair. Hein, mais en gros, on peut dire que on a 40 malades vus en ville, plus, on va dire, 15 malades vus à l'hôpital. Je maximise, hein, ce qui nous fait 55 malades en tout, pour l'hôpital et la ville.
D'accord.
Voilà. 55 malades en une semaine. Alors, je parle de nouveaux malades en une semaine pour 100 000 habitants.
D'accord, sur les bases de ces chiffres. On va faire une petite pause, Indoésie avec Pedro Galfouch et Francis Cabrel, et on revient avec vous, docteur Tobiana, pour parler, pour commenter ces chiffres.
Okay. Presto allontanato per scoprire altri albori, quanto per cade hai fatto per meritare sa sorte. Andiamo a in un soprano, so che è stata più forte. Cammini che ogunisci appena, ma lo mio cuore è ferito e si ne muore in vena. E noesi, e noesi, ballerine, la colère et la douleur me traversent la poitrine. j'ouvre tes livres d'enfant, je m'accroche à ces merveilles. Je suis le prince charmant qui t'embrasse et te réveille. A mio vena è profonda, a mio vita è sgraziata, la dimme cosa nulonda, e più manco una bracciata, agli in mente a do gioia, chi si ne terà stampata. Firmerai una medaglia,
Pedro Guelfucci et Francis Cabrel sur RCFM.
RCFM, si on en parlait.
Si on en parlait aujourd'hui, on parle du Covid-19 avec le docteur Laurent Tobiana, chercheur à l'INSERM, épidémiologiste, qui fait de l'épidémiologie depuis 30 ans et qui est l'un des rares Français à faire de l'épidémiologie de maladies transmissibles. Alors, on parlait de ces chiffres que vous avez annoncés la semaine dernière sur CNews, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Vous avez comme ça expliqué un petit peu quelles étaient vos bases et sur quels calculs, les calculs qui avaient été faits. Vous avez donné un chiffre également, je voudrais que vous nous en parliez, c'est le nombre de lits disponibles pour les 100 000 habitants en proportion.
Oui, je vais donner ce chiffre-là pour donner une échelle, si vous voulez. L'épidémie de Covid a été, en tout cas les mesures qui ont été mises en place ont été justifiées par le fait que...
on ne voulait pas saturer les hôpitaux.
Les hôpitaux pouvaient être potentiellement saturés. Et donc, on a beaucoup insisté là-dessus. Et donc, on a fait porter à l'ensemble de la population le fait qu'il y ait une carence de lits d'hôpitaux. En gros, pour faire très schématiquement. Or, lorsque j'exprime finalement mes nombres de malades pour 100 000 habitants, je me suis simplement intéressé au nombre de lits pour 100 000 habitants. Le nombre de lits hospitaliers pour 100 000 habitants, ce qui donne une toute petite échelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait aux alentours de 15, on va pas chipoter, mais 15 malades hospitalisés pendant une semaine. Mais vous savez combien il y a de lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants ? Ben, pour 100 000 habitants, il y a 580 lits d'hôpitaux. Alors, chez CNews, j'aimerais rectifier ça.
Oui, parce que vous avez parlé de 5 000 et quelques, oui. Mais vous aviez fait une erreur de chiffres.
Oui, il y avait une petite erreur d'ordre de grandeur. Alors, les ordres de grandeur sont quand même importants. C'est pour ça que je tiens à être rigoureux et revenir sur ce lapsus. En fait, 580 lits d'hôpitaux et non pas 5800 lits d'hôpitaux, mais peu importe, 580 lits d'hôpitaux pour un flux tendu, parce que les gens restent dans l'hôpital entre 8 et 15 jours, et si on n'a que 12 ou 15 malades, si vous voulez, on est loin de pouvoir saturer les hôpitaux.
Justement, je voudrais qu'on parle de ces chiffres, puisque vous me parlez de la pression hospitalière. D'ailleurs, j'ai une pensée aujourd'hui pour nos soignants qui sont au front, et je voudrais qu'on le rappelle aussi, ils ne sont pas au front que depuis la Covid. Hein, ils étaient déjà malmenés bien avant cette épidémie. Cette pression hospitalière, alors il y a un chiffre dont on a entendu parler, mais finalement qui est assez, qui est passé un petit peu à la trappe, c'est un rapport qui émane de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, donc une agence très sérieuse, et qui porte justement, docteur Tobiana, sur l'analyse de l'activité hospitalière 2020 liée au Covid. Et on peut y lire, je cite, au cours de l'année 2020, 218 000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la Covid-19. Les patients Covid représentent 2% de l'ensemble des patients hospitalisés au cours de l'année 2020, touchant hospitaliers confondus. Et un petit peu plus loin, on peut lire, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentent 5% de l'ensemble des patients pris en charge en service de soins critiques. Docteur Tobiana, c'est très loin quand même de l'image qu'on en a, c'est-à-dire qu'on parle bien de l'année 2020, où on nous disait que les services hospitaliers étaient pleins, à ras-bord de patients Covid. Est-ce qu'au niveau de la recherche, ce sont des choses que vous étudiez, l'impact justement des épidémies sur la pression hospitalière, sur les hôpitaux?
Alors, personnellement, non, pas pour ça. Vous savez, je ne fais pas que du Covid dans ma vie. Hein, je travaille sur de très nombreuses choses, y compris bien sûr les méthodes de soins, les thérapeutiques, etc., etc. Tout ça intéresse l'épidémiologie, mais sur ce point très précis, non, il y a effectivement, comme vous l'avez cité, des instituts qui le font. Et ce qui est très emblématique, c'est que ce fameux rapport a été effectivement passé presque sous silence. Pourtant, c'est l'équivalent d'une bombe.
J'étais très interloquée, je vous avoue, en préparant cette émission, lorsque j'ai lu ce rapport, en lisant ces chiffres, je me suis dit, bon, c'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui.
Ces chiffres, si vous voulez, viennent pour moi en confirmation de ce que je dis depuis le début. Depuis le début, je dis que cette épidémie est une épidémie banale. Alors quand je dis ça, évidemment, les gens hurlent parce que ça ne correspond pas. C'est en décalage avec, si vous voulez, 2 ans de désinformation. Pendant 2 ans, on a expliqué aux gens que c'était très grave, très dangereux, on nous a balancé des chiffres dans tous les sens, plus personne ne comprend rien. Et là, subitement, il y a Laurent Toubiana et sa bande qui viennent dire « Ah ben non, cette épidémie, mais elle est totalement banale, elle est même beaucoup plus petite qu'une épidémie de grippe, et elle fait beaucoup moins de mal. En réalité, cette épidémie ne touche que les personnes fragiles. »
Oui, parce que mais vous n'êtes pas le seul à dire ça, hein, docteur Tobiana. J'ai lu un article, enfin un livre très intéressant de Barbara Siegler, de la démocratie en pandémie, publié chez Gallimard, et elle parle d'une expression de Richard Horton, donc le rédacteur en chef de la revue internationale de médecine The Lancet, qui dit que le Covid ne nous menace pas tous à égalité, que c'est une maladie létale et dangereuse pour des publics déjà fragilisés, et qu'elle vient révéler un tableau sanitaire négatif des pays occidentaux avec leur population vieillissante et souffrant de polypathologie chronique. Est-ce qu'on peut, du coup, alors là je pose vraiment la question aux chercheurs que vous êtes, caractériser ce que nous vivons d'épidémie ou de pandémie au sens propre du terme?
Une épidémie touche, comme vous savez, étymologiquement, épidémie, ça touche
toute la population.
Au-dessus de la population, toute la population. Et de fait, une épidémie qui ne touche qu'une partie de la population, c'est une épidémie de cette population-là. Mais vous voyez bien que les mesures, elles, touchent toute la population. Et donc, c'est là la distorsion qu'il y a entre les mesures prises qui sont totalement disproportionnées, pour revenir au fameux 2% de tout à l'heure, disproportionnées avec la réalité de cette épidémie-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les personnes fragiles.
Ah ben pas du tout, bien évidemment.
Au contraire, mais tout l'argent qui a été mis dans cette crise, il faudrait quand même que des économistes puissent parler eux aussi de l'immensité de ce que ça va coûter à chacun des ménages en France.
Et à nos enfants plus tard, parce que c'est eux aussi qui vont.
De cette épidémie, on aurait peut-être mieux fait, probablement, de protéger les gens qui étaient fragiles et pas bloquer d'une manière complètement imbécile l'ensemble de la population. Il faut dire que toutes les mesures qui ont été prises d'une manière complètement d'un amateurisme hallucinant. Et ça, c'est dit avec une autorité, elle aussi, tout à fait hallucinante. On a quelqu'un qui vient nous dire, qui vient pleurer finalement à l'Assemblée nationale pour un cas, mais il ne pleure pas pour les 67 millions de gens qui vont être bloqués chez eux ou qui vont devoir subir une vaccination, etc., etc. Si vous voulez, nous sommes dans ce monde-là, un monde où on prend des cas particuliers, où on parle finalement d'une manière, c'est de la sensiblerie, pour mettre en place des mesures ultra dures. Donc c'est tout ce décalage-là qu'il faut réussir à décoder.
Donc selon vous, docteur, si je suis votre raisonnement, là on s'enferme quelque part dans une impasse politique et sanitaire si on continue sur cette lancée.
Eh bien, mais de toute façon, moi j'ai l'impression depuis le début qu'on n'écoute pas d'autres voix, qu'on a un dogme. En gros, nous sommes face à un dogme, le dogme de la vaccination. C'est une nouvelle religion, d'ailleurs nous l'avons écrit hein, dans notre tribune, celle qui a été signée par les 2300 chercheurs et médecins. Nous sommes dans une sorte d'irrationalité totale, ça va à l'encontre de toute politique sanitaire saine, et on y va comme une sorte de train fou qui déraille, quoi.
Mais alors, on arrive à la vaccination. Est-ce que, docteur Tobiana, est-ce que le Covid, puisque vous êtes épidémiologiste, est un bon candidat à la vaccination, puisque moi j'ai toujours entendu dire que pour que un virus soit un bon candidat à un vaccin, il fallait qu'il y ait que des foyers humains et que ce vaccin, en plus, alors c'est pas le cas du Covid puisqu'on sait qu'il y a des foyers animaux, et que ce vaccin protège pratiquement à 100% contre la transmission. On sait aujourd'hui. Ce n'est plus un secret que le vaccin, il protège des formes graves, les personnes qui ont des comorbidités, on ne va pas revenir là-dessus.
Mais on peut revenir là-dessus.
Oui, mais est-ce qu'il protège ? Non, mais est-ce que, docteur, est-ce que du coup, le vaccin, est-ce que le Covid est un bon candidat à la vaccination ?
Non. La vaccination, si vous voulez, moi j'ai toujours compris que une vaccination était là pour protéger de maladies extrêmement graves, comme la polio, si vous voulez, ou la variole. Ce sont des maladies qui...
Où nous sommes tous vaccinés.
Sont extrêmement graves. Mais là, nous sommes face à une maladie qui ne touche que les personnes fragiles et qui ne laisse indemne l'immense majorité de la population. C'est-à-dire 80% de la population n'est pas touchée par cette maladie. Cette population, en général, lorsqu'elle est vraiment malade, fait une forme bénigne de l'équivalent d'une grippe ou d'un rhume.
Parce que comme le disait le professeur Claveur hier, il prenait l'exemple que vous venez de citer de la polio, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu, on a fait une petite polio ou une polio de forme non grave, quand on était vacciné de la polio, on est vacciné de la polio.
Ah oui, moi je vais pas trop parler du vaccin lui-même, parce que moi je ne suis pas...
Médecin
Non, mais en plus, j'aurais pu étudier ce vaccin en détail, mais c'est pas mon objet, donc je ne peux pas entrer dans le détail.
Non, mais simplement, ça. La question à l'épidémiologie, c'était est-ce qu'il est un bon candidat, et vous m'avez répondu, à la vaccination. Est-ce que le Covid-19 est un bon candidat à la vaccination?
La maladie n'étant pas une maladie grave, je ne vois pas pourquoi on vaccinerait les gens. 90% maintenant de la population adulte est vaccinée, donc on n'a jamais vu des taux de couverture aussi hallucinants. Mais tout est pharaonique dans cette crise.
Mais on nous avait dit en plus qu'en atteignant...
Les couvertures sont pharaoniques et ce qui est à son origine est lilliputien. Si vous voulez, on est face à un truc qui est complètement disproportionné. Et quand
la mesure du pass vaccinal
vont prendre raison, vont essayer, vont se rendre compte de la supercherie dans laquelle on est, quoi. C'est fou.
Donc je ne vous pose même pas la question.
Même sur la vaccination. Alors, si vous voulez, moi ce que une vaccination en général, il y a là ce qu'on vous promet, c'est d'avoir une vaccination globalement tous les 4 mois. Puisque le pass vaccinal qui va être probablement voté dans les heures qui viennent, si ce n'est déjà fait...
Non, pas encore.
Peut-être pas encore, heureusement. Mais ce pass vaccinal va globalement obliger tout le monde à se vacciner. Et les gens qui ne se vaccineront pas seront des sous-hommes. Globalement, ils n'auront plus accès à quoi que ce soit. Et même, j'ai entendu certains médecins, mais faut voir ça, dire que les gens qui ne se vaccineraient pas seraient peut-être pas soignés.
Alors, Marlène Schiappa a réagi là-dessus. Elle dit qu'en temps de guerre, on soigne même les blessés des camps adverses et qu'il faut soigner les gens. Donc, docteur, rendre la vaccination obligatoire, parce qu'aujourd'hui c'est quelque peu ce que l'on fait, hein, au motif qu'un virus circule, c'est rationnel pour vous?
Rendre la vaccination obligatoire de certaines pathologies très graves qui vont avoir des implications toute la vie chez des enfants, c'est évidemment d'accord. Moi, je ne suis pas un anti-vax du tout. Pour certaines maladies, mais là, c'est une maladie bénigne. Ça ne touche pas les enfants. C'est eux qui trinquent le plus, quoi, qui supportent la charge maximum. Donc non, moi je ne suis pas du tout pour une vaccination obligatoire de ce type de maladie. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faut faire.
Et d'autant plus que les enfants ne développent pas de forme grave.
Dès le début, à partir du moment où on a su que cette maladie ne touchait pas les classes d'âge jeunes. Et jeunes, tout à l'heure je disais 50 ans, on peut même aller au-delà, hein, à partir de 65 ans, je considère que les gens sont encore jeunes. Donc ça ne touche pas ces personnes-là. La technique qui a été employée par la Suède était une bonne technique, à savoir créer de l'immunité naturelle, c'est-à-dire ne pas empêcher les gens de sortir, ne pas porter de masque, ne pas faire ça, se contaminer, et protéger uniquement les personnes qui étaient à risque. C'était faisable, ça n'a pas été fait. Pourquoi je dis ça?
On est encore à temps de le faire, docteur? Est-ce qu'on est encore à temps de le faire aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement peut se dire, on s'est trompé?
Peu ou prou, ça se fait tout seul. Parce que, si vous voulez, globalement, cette épidémie, elle est heureusement bénie. Et une épidémie, lorsqu'elle a démarré, si vous voulez, ça se mord un peu la queue et je vais vous expliquer pourquoi. Mais une épidémie, lorsqu'elle a démarré, il est pratiquement impossible de l'arrêter. Et d'ailleurs, on voit bien, toutes les mesures qui ont été prises ont servi à rien. L'épidémie passe quand même. Et pourquoi cette épidémie-là passe? C'est justement parce qu'elle est bénigne. C'est justement parce qu'elle se diffuse sans qu'on puisse la voir. Alors, on a essayé de trouver des outils pour la voir, c'est-à-dire les tests, mais on a bien compris que les tests ne servaient à rien d'autre que angoisser la population. Mais lorsqu'une épidémie est dangereuse, lorsqu'une maladie est dangereuse, on la voit tout de suite. Et là, on peut l'arrêter.
Vous d'accord.
Comprenez ce que je dis? Laisser les gens, les jeunes en fait.
Donc, mettre des masques, docteur Tobiana, mettre des masques aux enfants à l'école.
Ça, c'est une aberration totale, on dit depuis le début. Laisser les enfants se contaminer est une garantie pour les personnes plus âgées. C'est-à-dire que les enfants vont faire une barrière collective immunitaire pour protéger les personnes plus âgées. C'est ce que nous aurions dû faire, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Et c'est ce qui n'a pas du tout été appliqué. Ils ont appliqué des méthodes de despote, si vous voulez, de dictature, comme en Chine. C'est un truc absolument aberrant. Et tout ce qu'ils ont appliqué, toutes les mesures prises, sont toujours des mesures qui courent après l'événement et qui, en aucun cas, n'est capable de l'arrêter.
Et puis même si on vaccine les enfants, il faut...
C'est de l'agitation et on agite des choses comme ça. Et globalement, c'est nous qui, globalement, toute la population qui paye très très cher tout ça en santé, en...
Parce que ça génère beaucoup de stress quand même. Hein.
En stress à tous les niveaux. Donc voilà, nous avons été par une politique sanitaire totalement ahurissante et imbécile. Jeté dans une crise qui aurait pu se passer, mais très tranquillement.
Docteur, pour conclure, il reste une petite minute. Si vous aviez une préconisation à faire en tant que chercheur, en tant qu'épidémiologiste aujourd'hui au gouvernement, qu'est-ce que vous leur diriez?
J'aimerais, la première chose, c'est abandonner totalement l'idée du pass vaccinal et donc c'est une idée totalement imbécile et avouer ses fautes. Moi, j'avais, si vous voulez, au fin la dernière ligne de ce petit article que j'avais écrit au tout début, c'était ça. Je vais vous le lire, je l'ai pas relu, mais je le lis quand même. Par définition, la démarche scientifique est fondée sur l'incertitude. La communauté scientifique dispose de méthodes et de ressources permettant de corriger en permanence cette incertitude, voire de se remettre en question radicalement. Nous tentons ici, à notre mesure, de corriger légèrement la perspective. Eh bien, je recite ces quelques phrases. C'est exactement ce que je dis. On peut même radicalement faire amende honorable. L'erreur est humaine. On peut se tromper, mais persévérer dans l'erreur, eh bien, là, c'est diabolique.
Merci beaucoup, ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup Laurent Tobiana, chercheur à l'INSERM, épidémiologiste, de nous avoir fait le plaisir de nous accompagner cette heure ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour tous vos messages, je les ai lus sur nos réseaux sociaux et vos réactions. Vous pouvez commenter cette émission sur nos réseaux sociaux, la partager et bien sûr la retrouver dans son intégralité sur notre site internet Bleu RCFM. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
France Bleu RCFM.